Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
Bonsoir à tous et bienvenue dans la Conspiration des planches, l'émission critique des arts de la scène de Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Vous nous retrouvez tous les mercredis à 19h pour la première diffusion et en diffusion, c'est le jeudi, le lendemain à 13h30, juste après Midi Express. Cette semaine, dans les salles de la pièce adolescente giflante, c'est Happy Slapping, à l'atelier 210, du linchal qui se lave en famille, c'est Ossister, du côté des riches clairs et aussi de très très belles reprises. On va vous conseiller Les Bonnes Intentions du côté du poche et RW, ça c'est le rideau installé au Centre Culturel Jacques Franck. J'ai Olivier à mes côtés, bonjour Olivier.
Bonjour, bonsoir.
On est entre hommes aujourd'hui, voilà, on les a mises de côté, les madames. Elles reviendront en tout cas la semaine prochaine, ça c'est promis pour leurs fans. On aura aussi quelques annonces à vous faire part, notamment en danse, mais ça ce sera pour la fin de l'émission. Tout de suite, on prend la direction de l'atelier 210. L'atelier 210 qui a un peu réduit la voilure au niveau théâtre cette année, pour cette saison, mais ça crée quand même. Et première création de cette saison, c'est Happy Slapping de Thierry Janssen, mise en scène par Alexandre Drouet. Je te laisse ouvrir le jeu.
Voilà Thierry Janssen qui avait fait l'adaptation du Tour du Monde en 80 jours au parc l'année dernière. Voilà. Alors, il s'attaque ici à la problématique de l'adolescence et de ses ados un peu perdu, un peu paumé, sans repère, et qui, pour s'amuser par pur jeu, gratuitement, font du happy slapping, c'est du lynchage. Donc, on les voit distribuer des gifles à des inconnus dans la rue en se filmant et à poster ces vidéos sur leur propre blog, Zootropa.
Ce que j'appelle des jacasseries, comme ça. Voilà, on pense à l'émission Jackass sur
voilà,
MTV.
Je ne sais pas si ça existe toujours, mais ça fait directement référence à ce genre d'émission.
Ça fait des petits.
Voilà. Et puis arrivent, donc ils sont trois, au doux nom de Lucas, Spielberg et Coppola, ce sont leurs surnoms, trois jeunes ados donc. Puis intervient une quatrième, une jeune fille, Iris, qui va un peu chambouler le rapport, puisqu'elle va introduire une notion d'échange amoureux avec les trois et de rivalité. Et donc leurs jeux vont un peu prendre une autre dimension, une dimension plus politique et une dimension plus violente. Mmh. Et donc c'est un peu ça que va nous raconter Thierry Janssen dans son Happy Slapping.
Oui, alors tout à fait. Ça passe vraiment de la connerie d'adolescent non fondée à un discours, parce que ce que Thierry Janssen fait quand même, c'est qu'il met dans la bouche de cet ado un discours qui se construit sur le chaos, en fait. C'est ce qu'on ressent, en fait, au fur et à mesure de la pièce. Et c'est ce discours qui va qui va faire une montée en puissance, un petit peu, vers un acte ultime qu'on ne dévoilera pas. Mais en tout cas, ici encore une fois, c'est une pièce qui parle des tragédies adolescentes qu'on a pu voir dans d'autres spectacles. On pense à Columbine, on pense à Bastian Boss, on pense à toutes ces choses-là qui se sont vraiment passées et qui sont vraiment des actes sans retour qui ont été faits. Et c'est clairement aussi une des références de ce spectacle.
Oui, mais ce dont le spectacle nous amène, on le sait dès que le spectacle s'ouvre, puisque la première vidéo nous présente l'issue dramatique de ces quatre jeunes.
Ce qui permet d'enchaîner, en fait, évidemment, c'est sur ce travail vidéo. Voilà. Parce que c'est une partie intégrante quasi du jeu.
Voilà. Et pour moi, c'est la partie la plus intéressante, c'est la partie vidéo, l'interaction de l'action sur le plateau avec l'écran vidéo. Donc, il y a toute une série d'actions qui sont entamées, débutées sur le plateau, qui se poursuivent sur un écran vidéo avec les mêmes acteurs. Et je trouve ça vraiment très, très intéressant et très...
C'est bien fait parce que ça se chevauche. Parfois, ils font comme du playback par rapport à la vidéo. Enfin, ça se marie très, très bien.
Ça permet aussi une pudeur par rapport à une certaine violence, justement.
Oui, parce qu'on a le prisme de la vidéo, hein, ça nous met une barrière encore en plus du fameux quatrième mur, voilà. Et cette mise en scène, c'est vrai, cet écran vidéo est assez loin. Pour expliquer un petit peu le plateau, c'est un plateau assez sombre finalement, avec une espèce de chaise d'arbitre de tennis là qui est mise où les ados vont s'isoler un à un pour raconter. Voilà. Parce que on est entre des scènes dialoguées et une adresse au public de ce qui se passe, de ce qui est ressenti. Le ressenti est très important. Les quatre personnages sont construits, on pourrait dire un peu caricaturés, en tout cas, ils sont stéréotypés. Oui. Moi, c'est pas forcément un défaut, justement, de cette pièce, parce que ça permet quand même de nous attacher à certains et de suivre et de bien placer les différents pions et de voir les différentes causes, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Et ça nous met, évidemment, face à ce grand flashback qui nous est proposé, puisqu'on est souvent dans le flashback, dans le déroulement de cette pièce. Alors, comme tu disais aussi tout à l'heure, Iris vient tout chambouler. Ça aussi, c'est assez particulier. Hein. Encore une fois, la femme a le mauvais rôle, on va dire, dans cette pièce. Et qu'est-ce que ça pose comme question aujourd'hui, ce genre de pièce ?
La responsabilité, clairement, parce que moi, ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il est pointé du doigt la responsabilité des parents, qui sont tout à fait absents. Donc, la construction des personnages est assez caricaturale, mais ce qui est commun aux quatre, c'est que leurs parents sont vraiment absents. Pour les deux, il y a deux frères, on n'en parle même pas. L'un vit avec sa grand-mère qui est décédée. Voilà, on va pas en dire plus. Et la fille, elle ne voit pas son père parce qu'il vit.
Oui, c'est une fille à papa, voilà, de riche et qui est abandonnée, vraiment laissée à elle-même.
Et cette absence de parents est présentée comme une des raisons probables à leur chaos, à leur perte de repères, en tout cas.
Alors, moi, ce qui m'a quand même toujours un petit peu dérangé dans ce genre de pièce très adolescente, très cinglante, qui nous lance ça un petit peu au visage, c'est le peu d'espoir que ça laisse, en fait. Moi, c'est toujours ça un petit peu. C'est qu'on a l'impression qu'il n'y a aucune issue. Et on sent que Thierry Janssen veut nous donner un espoir d'issue favorable. Vous l'aurez compris que ça ne se termine pas si bien que ça. Elle passe très vite, c'est trop tard, quoi. C'est un exemple de discours intergénérationnel qui a été manqué, voilà, tout simplement. Alors, c'est là que ça m'a un petit peu refroidi. Je ne sais pas. Ce qui me... aussi un autre petit aspect qui m'a un petit peu dérangé, c'est aussi que tout est verbalisé. C'est-à-dire que c'est très, très bavard comme pièce et que rien n'est suggéré.
Non, du tout. Ça, pour moi, c'est un des gros défauts de la pièce. Mmh. Et surtout que, vu que tout est verbalisé, le jeu des comédiens ne suit pas toujours, n'est pas à l'auteur de ce qui est dit. Et donc, voilà, ça met pour moi une distance pour rentrer dans le spectacle.
Alors, un mot sur cette distribution. On a Julien Bézure, Sandrine De Smet, Jérémy Pétrus, Thibaut Watley. Celui qui s'en sort le mieux, c'est Jérémy Pétrus, vraiment, joue le plus jeune, qui apparemment serait le plus âgé de la distribution. Voilà.
Et qui arrive justement à construire son personnage et à donner une empathie, à créer un monde autour de ce personnage de Lucas.
Voilà, donc pour Happy Slapping, tragédie adolescente, je sais que tu es un petit peu plus réservé, Olivier.
Voilà, parce que aussi, pour surligner les aspects émotifs, on nous remet de la musique Arvo Pärt, en l'occurrence, qui a quand même été utilisée dans toute une série de films, toute une série de spectacles. Donc voilà, c'est un peu facile.
J'ai mes réserves, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de bonnes choses, notamment dans le jeu sur la vidéo et le travail de Jérémy Pétrus là-dessus.
Mais c'est une bonne amorce au dialogue avec les adolescents, entre parents et enfants. Voilà, il faut.
C'est un bon spectacle pour adolescents, en fait, je trouve. Ouais. Ouais, c'est tout à fait ça. Happy Slapping de Thierry Janssen, avec une mise en scène et des vidéos d'Alexandre Drouet, assez bien réalisées, à découvrir donc à l'atelier 210. C'est jusqu'au 24 novembre, www.atelier210.be pour toutes les infos. Je vous emmène au Riche Clair. Alors, allons-y. C'est le retour de Dominique Bréda. Alors moi, j'étais très fâché avec lui parce que l'année dernière, il nous avait laissé avec son spectacle Do It, présenté au théâtre de la Toison d'Or. Et quand on voit ça, on se dit, mais où est-il celui qui avait mérité le prix de la critique en tant qu'auteur en 2010? Il nous avait enchanté avec Emma, le groupe Purgatoire et New York aussi, qu'on a pu revoir récemment. Avec Do It, ça n'allait plus, en tout cas. Et pourquoi? Eh bien, justement, parce que je trouvais que ce spectacle, par rapport aux autres de Bréda, ne mettait plus tous les personnages sur le même plateau. Moi, j'aimais bien justement cette ambiance de groupe, mis à part dans Emma, mais cette ambiance de groupe où tous les personnages avaient un petit peu la même valeur et pouvaient avoir une place vraiment importante. Alors ici, dans Sister, on est dans un trio où là aussi, on retrouve ça justement. J'en parlerai juste après. Un petit mot aussi sur la jeunesse du spectacle. Les Riches Clairs ont demandé en fait à Odile Mathieu, comédienne et auteure également, un spectacle pour leur saison. Et elle a fait appel justement à Dominique Bréda. Donc c'est un texte qui a été coécrit par Odile Mathieu et Dominique Bréda. Et la mise en scène, c'est de Bréda uniquement. Qu'est-ce que c'est comme histoire? On arrive dans un théâtre, on est plongé sur un plateau où une metteur en scène tout à fait désabusée cuve son vin et sa pièce foutue parce que tout le monde l'a lâché. Et seul un comédien, interprété par Jojon Mossou, le grand échalas qu'on a pu voir chez Arsenic notamment, reste parce qu'il est un peu béné, il est un peu pistonné aussi, on apprend. Enfin bref, il est là. Et arrive aussi la sœur de la metteur en scène, interprétée par Odile Mathieu. La metteur en scène, c'est Muriel Bercy, pour essayer de la consoler. Et finalement, ils disent, ben voilà, on a l'argent, il faut faire absolument ce spectacle, il faut construire quelque chose. Donc, on cherche dans l'état des pièces, comme ça, dans le tas de pièces qui s'offrent à elle. Et ils essayent des choses, Jojon Mossou, Odile Mathieu, sous la direction d'une Muriel Bercy à Colo et Pleurnichard. Et ben ça, c'est un peu chaotique, hein, ça ne va pas très bien. Tout se joue, donc on a des pièces dans la pièce qui se font au fur et à mesure, mais au fur et à mesure, on va arriver dans quelque chose de tout à fait surréaliste. Il y a un déclic à un moment donné où ils découvrent une pièce qui est en fait ce qu'ils jouent depuis le début. Ah ouais. Donc leurs dialogues sont déjà écrits. En fait, il y a une espèce de cette mise en abîme qui est tout à fait fascinante parce que c'est vraiment là que la pièce débute. Il faut quand même attendre une demi-heure pour trouver ce côté surréaliste que Bréda insuffle souvent dans ses spectacles. Et on dit, ah oui, ça y est, là ça commence. Et alors comment justement Muriel Bercy se dit, ah mais oui, j'ai écrit ça il y a quelques années, je m'en rappelle. Je sais plus trop comment est la fin. Et donc justement... on va voir comment ça se termine avec plein de l'histoire d'une bombe qui arrive. Enfin bref, ça part dans un peu dans tous les coins, mais c'est assez agréable dans sa deuxième partie. Justement, le défaut, c'est ça, c'est que il faut vraiment
une installation
assez longue et laborieuse avec ce jeu entre les deux sœurs qui ne s'entendent pas mais qui veulent s'entraider quand même. Enfin, c'est un petit peu laborieux et mou du genou et finalement, il faut ce déclic pour que la deuxième partie s'enclenche. Et quand ça se termine, on se dit « Ah ben zut, voilà, c'est trop court malheureusement. » La pièce dure 1h20 et on se dit « Ben, on a peut-être raté quelque chose et on a oublié d'exploiter justement cette deuxième partie jusqu'au bout. » Parce que, je ne vous dévoile rien, il y a une scène qui se fait, une longue scène qui se fait totalement dans le noir parce qu'il y a une coupure de courant dans le théâtre. C'est très très drôle parce qu'entendre les comédiens comme ça se... aller dans la cave et tout ça, c'est quand même assez croustillant. Mais malheureusement, moi, je trouve que ça arrive un petit peu trop tard. Donc, ça nous a réconcilié un petit peu avec Dominique Bréda. Mais on attend quand même qu'il se reprenne un petit peu. Et on vous conseille d'ailleurs d'aller voir aussi Purgatoire qui sera repris au mois de janvier au TTO. Ça, c'est vraiment son hit. Mais pour l'heure, au Sister, c'est à voir jusqu'au 24 novembre du côté des Riches Clairs, www.lesrichesclairs.be. 02 548 25 80, ça c'est le numéro de téléphone pour les réservations.
La conspiration.
De retour dans la conspiration des planches. Place aux reprises après les deux créations que nous vous présentions dans la première partie de cette émission et on va du côté des Tanneurs pour voir un spectacle qui a marqué les esprits, Olivier.
Voilà, I Would Prefer Not To de Selma Lawi qui a reçu plusieurs prix au prix de la critique qui est repris donc maintenant au Tanneur et c'est tout à fait mérité. C'est vraiment une très 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 bonne surprise. Je l'avais loupé à sa création. Et le projet de Selma Lawi, c'était d'introspecter le sentiment mélancolique. La mélancolie, qu'est-ce que la mélancolie? Qui est souvent associée à un état un peu négatif. Et pour elle, pas du tout. C'est quelque chose... à la fois, il y a un côté où on tombe dans un état d'abattement profond, mais aussi d'exaltation très, très grande. Donc, il y a cette ambivalence entre les deux états de déprime, de dépression, et puis d'exaltation. Voilà. Et donc, elle voulait travailler là-dessus. Elle est partie sur deux textes, La mère de Witkiewski, un auteur polonais de 1924,
Et Bartleby.
Et Bartleby, d'Herman Melville, l'auteur de Moby Dick.
Et donc... la date aussi, 1853. Mais j'ai un copion.
Hein. Non, mais bon, voilà, c'est deux textes anciens. Donc, dont elle a repris certains extraits, les personnages, les deux personnages masculins dont on en a fait un, du nom de Byron, référence au poète anglais, prototype du romantisme anglais. Elle a réécrit certaines scènes. Donc, déjà, tout ce travail dramaturgique est très, très, très bien fait. C'est vraiment de l'orfèvrerie. Et donc, l'histoire, pour revenir là-dessus, s'il y en a une, c'est l'histoire de ce Byron, du nom du poète anglais, qui vit avec sa mère qui est un vrai personnage hallucinant, alcoolique, drogué, excentrique, hystérique, excessive, excellemment jouée par Anne-Marie Lope. Avec Byron, il y a sa cousine Dahlia, dont il a une relation assez ambiguë, amoureuse, mais voilà, c'est plutôt Dahlia qui a une libido très 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 développée.
Okay.
Voilà, donc ça c'est le trio de base auquel va venir s'adjoindre le patron, puisque Byron est sans emploi et puis dans la deuxième partie il va trouver un boulot. Son patron, qu'est-ce que je voulais dire sur son patron ? Je ne sais plus ce que je voulais dire sur son patron.
Bref, il intervient.
Byron va tomber amoureux d'une autre jeune fille, une Sophie, et le dernier personnage c'est un jeune, à la figure d'ange qui passe comme ça à vélo tout au long de la pièce et dont Dahlia va faire son objet amoureux. Et donc voilà, on a toute cette série de personnages qui est excellemment bien jouée par une bande d'acteurs vraiment tous excellents.
Il paraît que la distribution est excellente de manière égale.
Voilà, tout à fait. Il n'y en a pas un moins bon que l'autre. Mmh. C'est vraiment assez rare et j'insiste là-dessus. Mmh. C'est vraiment du début à la fin, pendant les 2 heures du spectacle, ils tiennent le spectacle. Et donc, on va, à travers ces personnages excentriques, un peu oisifs au début, dans le milieu familial au début, dans le milieu du travail, dans la deuxième partie du spectacle, on va les voir évoluer et essayer d'analyser leur état d'âme, leurs humeurs, et voir comment on peut passer d'un état... à ne rien faire, un peu dépressif, oisif, comme ça, nonchalant, à une exaltation presque, presque maladive.
Et la mélancolie est là ?
La mélancolie...
était un point de départ.
C'est le point de départ, parce que vraiment, sinon c'est un spectacle qui joue sur le décalage du début à la fin, où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour. On rigole, on s'amuse, c'est tendre, c'est à voir.
C'est à voir, en tout cas, jusqu'à ce samedi 17 novembre. Alors, il faut aller très, très vite parce que c'est déjà complet ce soir, mercredi. C'est complet demain, jeudi soir. Alors, possibilité de liste d'attente, mais quand même, il ne faut pas trop traîner. On rappelle que ce spectacle a reçu en 2011 les prix de la critique, le prix de la meilleure mise en scène et le prix de la meilleure comédienne pour Anne-Marie Lope.
Excellent.
Et on va quand même rappeler aussi, comme cette distribution est tellement bonne, Anne-Pascale Clérambourg est dedans, Damien de Dobeler, Émilie Maquet, Vincent Bine et Baptiste Sorna.
Voilà.
I would prefer not to de Selma Alaoui, www.letanneur.be.
Et la semaine prochaine à Liège.
Ah, en plus, ben voilà, on pourra encore aller les rattraper là-bas, à une portée de train, s'ils ne sont pas en grève. Tiens. Moi, je vous emmène du côté du Poche, qui reprend aussi un spectacle primé, décidément, cette année, pour son texte. Il s'agit des Bonnes Intentions de Cathy Minyoun. Alors là, c'est un spectacle tout à fait particulier. On entend souvent sur l'adoption des phrases un petit peu angéliques. En effet, l'adoption part de bonnes intentions, mais... ça ne suffit pas, et c'est ce qu'on va voir dans cette pièce où Cathy Minyoun parle en partie de ce qui lui est arrivé. Elle est d'origine asiatique, elle arrive accueillie dans une famille de fermiers du Hainaut, et là, rien ne se passe. C'est-à-dire qu'une barrière se crée entre les parents adoptifs et l'enfant, et l'amour ne passe pas, justement.
Du tout,
et alors, en vient le déni, la maltraitance également, et on voit que ça va marquer, évidemment, Cathy Minyoun.
Ce n'est pas son histoire personnelle.
Non, mais...
c'est elle qui interprète le texte, mais elle s'est basée sur des témoignages.
Oui, voilà. Alors, C'est un texte tout à fait fascinant, justement, où on nous sert des choses assez terrifiantes quand même, hein, une histoire assez qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, et elle nous amène ça dans un décor. C'est une bétaillère comme ça qui est sur scène et qui va servir à la fois de décor d'intérieur, mais aussi de salle de projection. Et ce décor participe vraiment à l'ambiance de la pièce et lui permet d'évoluer dans ce spectacle qui est vraiment admirant, enfin on est admiratif devant ça parce que on est pris par ce texte qui le mérite bien dans ce seul en scène où elle est mise en scène par Rosario Marmol Pérez, je crois, hein, c'est bien ça, et une très très belle scénographie qui nous est offerte également dans ce spectacle. Je regarde, c'est Ronald Burns qui avait été aussi récompensé cette année pour la scénographie, mais là du Tour du Monde du parc dont on vous parlait tout à l'heure. Donc vraiment les bonnes intentions, un superbe spectacle sur l'adoption.
Rien n'est épargné.
Rien n'est épargné.
On parle
vraiment
de l'argent, de la dimension ambiguë que peut avoir aussi des Occidentaux adoptés, des Asiatiques, des petites filles asiatiques. Donc c'est vraiment le point de vue de l'enfant adopté par rapport à sa situation aujourd'hui. Moi, le seul bémol, c'est par rapport au jeu, parfois de Cathy.
C'est vrai que...
Mais en même temps, c'est ce qui fait aussi la qualité du spectacle, c'est que c'est elle qui a écrit son texte et qui le porte aussi. Donc
Oui, c'est vrai que le jeu est un petit peu froid, moi, je trouve, au début. Mais après, on est vraiment emporté par ce texte. Voilà. C'est ce qui prend le dessus.
Oui,
et donc, on est vraiment pris
dans l'émotion.
C'est à voir jusqu'au 24 novembre du côté du théâtre de Poche Les Bonnes Intentions, www.poche.be. Et encore un mot pour vous dire que Radio Campus a des places à vous offrir dans les agendas culturels pour ce spectacle. Dernière reprise de la semaine, c'est du côté du Rideau. Et là, encore une fois, un spectacle qui avait été primé, notamment dans sa première partie.
Voilà, les RW, les premiers et deuxièmes dialogues qui avaient été créés à l'Océan Nord la saison dernière ou il y a deux saisons, je ne sais plus, par Pascal Crochet, dont on a pu voir en début de saison son Kafka. Et c'est par cette première œuvre autour de Robert Walser qu'il est venu à son Kafka. Et donc ces deux dialogues, le premier se passe dans la maison, dans une maisonnée, c'est l'arrivée d'un homme dans une maison pour se présenter à la place de domestique. Et cet homme est interprété par quatre comédiens assez exceptionnels aussi. On va voir comment ce domestique démultiplié va se fondre dans un univers très bourgeois, avec deux maîtresses de maison aussi, ou une maîtresse dédoublée. Les rapports d'intimité, de soumission, de méticulosité, d'ordre, tout ça est abordé de manière très très sensible dans une esthétique assez, assez efficace et simple. Et le deuxième dialogue, là on quitte la maison, c'est le grand monde, et donc Pascal Crochet s'est basé sur un autre texte de Robert Walser, plus précisément La Promenade. Et là, c'est une balade. On retrouve ces quatre mêmes personnages, ces quatre mêmes serviteurs, mais qui se baladent dans la ville et qui vont faire différentes rencontres. Donc, avec une femme qui veut devenir cantatrice, avec un libraire, parce qu'ils veulent travailler dans une librairie. Et voilà, ils traversent cette ville dans autant d'univers et chaque comédien transforme la scène, ce qui est assez dynamique dans cette deuxième partie, où la première est plus intime, plus statique, mais très positivement. Et la deuxième, là, il y a des éléments décor qui bougent avec les comédiens, et la musique est un peu plus présente. Il y a de très, très, très belles images. Voilà.
C'est la même distribution pour les deux ?
C'est la même distribution pour les deux. Donc, c'est deux fois 1h20, il y a une pause de 30 minutes.
Oui, parce qu'on rappelle donc ces deux spectacles qui étaient présentés comme deux spectacles indépendants au début, ici, au cours d'une même soirée, on s'enchaîne, ça dure donc 3 heures, mais avec un entracte entre les deux, mais ça se laisse voir tout à fait agréablement. On rappelle que le premier dialogue avait reçu le prix de la critique en 2010 du meilleur spectacle, et on souligne aussi la scénographie, je crois, qui était...
La scéno, les lumières aussi, et puis là aussi on peut citer les six comédiens.
Anna Servinka, François Delcamp, Cécile Le Burton, Thierry Lefebvre, Étienne Van Der Bellen et Simon Wouters. C'est une mise en scène de Pascal Crochet sur des textes de Robert Walser. Et c'est à voir jusqu'au 24 novembre du côté du Centre culturel Jacques Franck pour le Rideau de Bruxelles.
Et c'est fois. À 20h.
C'est à 20h, oui, parce que le spectacle, comme il voilà. est assez long, c'est à 20h. www.rideaudebruxelles.be. Très rapidement, un détour par les Halles.
Voilà, le festival Latitude revient pour cette 4e édition. Donc c'est un festival, une manifestation entre Lille et Bruxelles, autour de la danse, des performances. Et l'ouverture, c'est ce soir et demain soir avec Olga De Soto et une réflexion sur la table verte. La table verte de Curtio, c'était un ballet expressionniste de 1932, si je me souviens bien, qui a vraiment marqué l'histoire de la danse contemporaine. Et Olga De Soto est partie à la recherche de personnes qui ont vu ce spectacle à la création ou lors de ses recréations. Et donc, elle propose des réflexions autour des témoignages de spectateurs de ce spectacle.
Mais c'est de la danse. Hein.
C'est de la danse. C'est de la danse avec des vidéos, des témoignages.
Mmh, okay.
Elle fera aussi la clôture avec une reprise de Histoire 2, qui est le même principe, mais autour de la création de La jeune fille et la mort, de je ne sais plus.
l'auteur, j'ai oublié
le
également.
Chorégraphe, après la Deuxième Guerre mondiale, voilà. Le chorégraphe français.
On rappelle aussi que le festival Latitude, c'est un festival transfrontalier. C'est une carte blanche un petit peu donnée à Lille, hein, c'est ça?
Voilà.
Et c'est à voir. Donc ce festival se poursuit encore 2 bonnes semaines du côté des Halles de Scarbeck. On en reparlera peut-être la semaine prochaine. Avec les spectacles à venir. C'est ici qu'on va clore cette émission parce qu'on est un petit peu pris par le temps là. Merci Olivier.
À la semaine prochaine,
on rappelle. Donc, des ados qui giflent, c'est Happy Slapping. Deux sœurs qui s'entre-déchirent sur scène, c'est O Sister. Et de très très belles reprises sur l'adoption, sur la famille, sur la mélancolie. Bref, pas mal de choses à voir. Le podcast de cette émission sur demandezleprogramme.be. Rejoignez-nous aussi sur Facebook, on vous attend. Venez aussi nous dire ce que vous pensez de cette émission et des spectacles que vous voyez. La conspiration des planches sur Facebook, c'est très facile de nous retrouver. Très belle semaine à vous et à très bientôt. Conspiración.